C'est le journal sur France Inter de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Toujours plus vite, toujours plus fort, le variant indien se répand à vitesse grand V en Europe et dans un département de France, les Landes. Jean Castex et Olivier Véran sur place aujourd'hui. Alléluia, il a marqué Benzema et son doublé hier soir face au Portugal. Match nul à l'arrivée, mais les Bleus sont là où ils voulaient. Premier de leur groupe avec la Suisse comme adversaire lundi en 8e de finale. Nous serons à Budapest que l'équipe de France quittera bientôt pour Bucarest. Quand des économistes mettent les pieds dans le plat, taxe carbone, retraite à points, impôt sur héritage, rapport commandé par Emmanuel Macron pour réformer la France, et ils seront dans ce studio tout à l'heure.
Oui, ils l'ont piloté ce rapport, le prix Nobel Jean Tirole et le professeur émérite au MIT Olivier Blanchard à notre micro avec Léa dans une vingtaine de minutes. Participez au débat, on vous attend au 01 45 24 7000.
La petite enfance, les maisons de retraite, les collèges, le RSA, nous avons tous à faire un jour ou l'autre aux compétences des départements. Le rappeler pour donner envie de voter, message de campagne avant le second tour des départementales, on verra ça dans l'Essonne. Dans ce journal aussi Marseille, où les assesseurs de la mairie seront payés double pour tenir les bureaux de vote dimanche prochain. Le juste prix pour les agriculteurs, nouvelle proposition de loi à l'Assemblée pour rendre leurs tarifs non négociables. Et ni animal, ni végétal, mais d'une intelligence étonnante, le blob, bientôt dans l'espace avec Thomas Pesquet, passionne tous ceux qui s'en approchent. Et ça commence très tôt, vous allez voir.
France Inter.
Comme le variant anglais avant lui, le variant indien, dit Delta, dominera bientôt l'Europe pour atteindre 90% des contaminations d'ici la fin août. Et pour mieux saisir cette prévision des autorités sanitaires européennes, il n'y a qu'à se tourner chez nous vers les Landes. En 3 semaines, le variant y est devenu majoritaire, détecté dans 70% des cas. Jean Castex et Olivier Véran sont donc attendus à Mont-de-Marsan aujourd'hui pour insister sur la vaccination, Daniel Messager.
Nuages noirs dans l'embellie, alors que sur l'ensemble du territoire, le taux d'incidence s'est tombé à 24 cas pour 100 000 habitants. Dans les Landes, il a dépassé les 50. La faute au variant Delta, devenu rapidement majoritaire, est responsable de cette reprise épidémique, selon le virologue Bruno Lina.
C'est le seul département où le taux d'incidence augmente en France. Or, c'est le seul département où ce variant est majoritaire. Ça s'explique parce qu'en fait, les premiers cas de variant Delta détectés en France étaient dans la région du Bordelais et des Landes. On a eu un défaut de surveillance. Les laboratoires des Landes ne participaient pas à cette surveillance. Ce virus a circulé un petit peu silencieusement.
La dissémination est inexorable. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, au Portugal. Mais la vaccination est efficace. Il faut donc miser sur son augmentation.
C'est la vaccination qui nous apportera la solution. Les non-vaccinés seront infectés. C'est mathématique. Donc, si on a, dans la période de l'été, la possibilité de poursuivre le niveau d'immunisation, on sortira de l'été avec un niveau de vaccination suffisamment élevé pour freiner de façon très efficace la circulation de tous les variants potentiels.
Plus de 50 millions d'injections ont été réalisées, mais à peine 20 millions de Français ont reçu 2 doses. Les autres, avec une seule dose, doivent maintenir les gestes barrières. Ils peuvent encore développer des formes sévères.
Développer des formes sévères avec une seule dose, attraper le virus avec 2 doses sans ces formes graves, la preuve dans cette maison de retraite du même département des Landes où 21 résidents totalement vaccinés ont été contaminés au variant Delta. Et la confirmation en Israël, où le nouveau variant fait remonter les contaminations dans un pays pourtant massivement vacciné, Alice Roussard.
En début de semaine, lundi, 125 personnes ont été testées positives au coronavirus. Hier, 100 nouveaux cas selon le ministère de la Santé. Des chiffres qui peuvent paraître un peu dérisoires. Mais ici, c'est le taux le plus élevé depuis 2 mois car 5 des 9 millions d'Israéliens sont doublement vaccinés et les médecins parlaient d'une quasi-immunité collective. La plupart de ces nouveaux contaminés sont des enfants ou des adolescents et dans ces contaminations, 40% étaient des personnes vaccinées. Pourtant, il est encore tôt pour s'inquiéter. Être contaminé ne veut pas forcément dire malade. La vaccination des adolescents s'accélère dans le pays et un troisième rappel du vaccin est prévu pour l'hiver, efficace contre les variants. En conséquence, le port du masque en intérieur et à l'aéroport est redevenu obligatoire alors qu'il était possible de ne plus en porter depuis la semaine dernière et les touristes ne seront pas autorisés à revenir dans le pays avant le mois d'août alors qu'ils étaient attendus dès le début du mois de juillet. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
Et au Brésil, variant local ou étranger, la troisième vague est bien là, nouveau record d'infection hier, 115 000 cas. Les services de réanimation sont toujours saturés.
Il est 8h05, fini le groupe de la mort, Florence. Maintenant, ce sont les huitièmes de finale de l'Euro.
Que les Bleus abordent comme ils le voulaient, en tête de leur groupe, après le match d'hier soir contre le Portugal. Un match nul 2-2 sur un doublé de Benzema. Bonjour Cédric Guillou, vous êtes à Budapest, où vous avez suivi le match.
Bonjour Florence.
Vous avez suivi le match et la libération pour l'attaquant et pour toute l'équipe, Cédric.
Oui, effectivement, Karim Benzema, il a déposé hier soir à la Puskás Arena le fardeau qu'il avait depuis son retour en équipe de France. 2 buts, le double déclic, on l'espère pour lui, l'attendait, les supporters des Bleus l'attendaient. Il a été élu homme du match hier soir face au Portugal, alors sans être forcément très très impliqué dans le jeu, en ne réussissant pas tout, mais il a eu le sang-froid de transformer un pénalty pour les Bleus juste avant la mi-temps, alors que les Français ont été ballottés par les Portugais en première période. Son pied droit n'a pas tremblé. Puis son deuxième but, Florence, il est superbe. Hein, juste au retour des vestiaires, un bel appel en profondeur. Une ouverture de Paul Pogba, une frappe croisée, pied droit. 28e et 29e but en équipe de France. Lui qui n'avait plus marqué en bleu depuis octobre 2015. Benzema est, on l'espère, lancé dans cet Euro.
Et c'est donc la Suisse, Cédric, qui attend les Bleus lundi à Bucarest, en Roumanie. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
Alors, je sais pas si c'est de bon augure, hein, Florence, mais ça fait 29 ans que les Français n'ont plus perdu contre les Suisses. Depuis le 27 mai 1992 et un match amical à Lausanne, les Bleus, qui restent sur 7 matchs consécutifs sans défaite contre les Helvètes. La dernière confrontation, c'était à Lille, lors de l'Euro 2016. Score final 0-0 en phase de groupe. Dans un tournoi international majeur, eh bien, les Français n'ont finalement jamais connu de faux pas face aux Suisses. Il y a eu quelques accros, mais seulement en match amical. La Suisse, 13e nation mondiale au classement FIFA avant le début de l'Euro. Elle a terminé 3e de son groupe derrière l'Italie et le Pays de Galles avec, comme les Bleus d'ailleurs, une seule victoire. C'était contre la Turquie. Ce sera le premier duel entre les deux nations en phase à élimination directe. La Suisse qui va disputer face aux Français un 4e, 8e de finale d'affilée dans une grande compétition. Et seule la Belgique et la France sont également parvenus à le faire en Europe.
Cédric Guillou en direct de Budapest, et vous allez vous aussi filer vers Bucarest pour ces huitièmes de finale. Et pas que, comme il n'y a pas que le foot dans la vie, on salue aussi ce matin la performance des basketteuses françaises qualifiées pour les demi-finales des championnats d'Europe. Elles ont battu la Bosnie-Herzégovine hier soir et partiront favorites face à la Biélorussie samedi.
Il est 8h08 pour que les agriculteurs, Florence, ne soient plus les dindons de la farce.
Oui, que les industriels leur payent le juste prix. C'était le but de la loi Egalim il y a 3 ans. Ça n'a pas marché. Voici donc une nouvelle proposition soutenue par le gouvernement. Elle passe à l'Assemblée aujourd'hui et ce serait une révolution. Manuel Ruffès, elle prévoit des prix non négociables pour la production agricole.
Il faudra désormais qu'un contrat pluriannuel d'au moins 3 ans lie l'agriculteur à l'industriel à qui il vend sa production. Contractualisation obligatoire donc entre les 2 premiers maillons de cette chaîne agroalimentaire et le 3e maillon, la grande distribution, n'aura pas d'autre choix que de payer strictement au moins ce tarif-là. Grégory Besson-Moreau, le député qui est à l'origine de la proposition de loi.
L'industriel va arriver avec une demande de hausse tarifaire et cette hausse, elle sera justifiée par un document qui atteste que sur cette hausse de 2%, il y a bien 1,5% qui concerne les matières premières agricoles et donc la grande distribution n'a pas d'autre choix que de la prendre en compte.
Plus encore, il existera également une clause d'indexation. Si par exemple l'aliment des bêtes augmente, le prix sera directement répercuté. Il fallait, reconnaît le député Besson-Moreau, imposer un cadre plus strict que celui de la loi alimentation.
Sur la loi Egalim, nous avons privilégié le contrat de confiance à la contrainte législative entre la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire et le monde agricole. Et on le voit, la confiance n'a pas fonctionné, donc on doit remettre de la contrainte législative pour faire en sorte que ces 3 acteurs se fassent enfin confiance.
Objectif, une entrée en vigueur de cette loi avant les prochaines négociations commerciales qui débutent à la fin de l'année.
Des agriculteurs qui ont commencé à toucher les aides du gouvernement après l'épisode de gel du mois d'avril. 2700 exploitants concernés par ces premiers versements, 1 milliard d'euros prévus au total. Rien de plus concret que les compétences des régions et des départements. Malgré tout, 2 électeurs sur 3 ne sont pas allés voter dimanche. Alors comment leur donner envie? En leur expliquant par-delà les clivages politiques ce que leur département peut faire pour eux. Voilà la mission que se sont lancées les deux listes qualifiées pour le second tour dans le canton d'Arpajon, dans l'Essonne. L'une de gauche, l'autre de droite. Distribution de tracts sur un parking. Reportage signé Julie Pietri.
Bonjour madame. Sur le parking, les clients du supermarché défilent, peu prennent le temps de discuter. Les tracts sont rapidement attrapés et glissés dans un sac.
Vous avez des questions, non ?
Non.
Bon, ok, bah n'hésitez pas. Hein.
Dominique Bougreau, UDI, conseillère départementale sortante.
On se rend compte souvent que les citoyens ne connaissent pas les compétences du département. Quand même les collèges, les routes, le RSA, donc tout ce qui est social, les anciens, c'est l'aide sociale à l'enfance.
Une femme s'arrête. Justement, elle travaille dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance.
Je sais ce que le département y fait, je sais ce qu'il fait pas. Voilà. On accueille de plus en plus des enfants qui sont en très très grandes difficultés. On manque encore de moyens.
Lydie n'a pas voté dimanche dernier.
Je travaillais, donc voilà, c'est pas un problème. Si on peut pas y aller au premier, on essaie d'aller au deuxième, donc voilà.
À droite comme à gauche, l'abstention du premier tour a été comme une gifle. Sarah Krimi, de l'Union de la gauche et des écologistes, s'efforce comme son adversaire de rappeler le rôle du département avec des exemples le plus précis possible.
Les pompiers chez nous, ils sont financés par le département depuis des années. Quand il y a une intervention d'un pompier en Essonne et notamment sur le canton d'Arpajon, eh bien c'est le financement du département qui permet ça. Enfin, tout le parcours de vie d'un habitant, à un moment, croise une compétence du département.
En répétant ce message aux habitants, les deux candidates espèrent le retour d'une partie des électeurs ce dimanche.
Oui, Julie Pietri, y aura-t-il des assesseurs dimanche à Marseille pour le second tour? Dimanche dernier, au premier tour, 34 bureaux de vote avaient ouvert avec une à deux heures de retard, faute de bénévoles et d'agents municipaux. Alors pour le deuxième tour, la mairie a cassé la tirelire, David Ossiou. Les agents réquisitionnés auront droit à une double prime.
Parce que le week-end dernier, même la réquisition officielle lancée très tard le samedi n'a pas été efficace. La moitié des agents contactés n'ont pas répondu. Alors les syndicats à la mairie sont montés au créneau. Ils ont réclamé une forte hausse de l'indemnité, 350 euros désormais, pour le président et ses assesseurs. C'est jusqu'à deux fois plus que le montant habituel. Mais cette fois, ça marche. De nombreux agents ont répondu à l'appel pour tenir un bureau de vote dimanche prochain. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, estime Patrick Ruet, le secrétaire force ouvrière des territoriaux de la ville. La municipalité fait quand même remarquer qu'en temps normal, c'est aux partis politiques de mobiliser leurs troupes. Mais les bénévoles sont de moins en moins nombreux. D'autant que cette fois, avec les régionales et les départementales, il a fallu en trouver deux fois plus.
Et avant le second tour, Adrexo demande de l'aide à La Poste. L'entreprise chargée d'acheminer une partie de la propagande électorale du scrutin déléguera 5 millions de plis à sa concurrente, chacune des deux ayant reconnu de gros ratés avant le premier tour. 9% des plis électoraux non acheminés. Le Sénat créera officiellement une commission d'enquête aujourd'hui.
Il est 8h13, ils n'ont pas disparu avec la crise sanitaire, Florence, bien au contraire.
Les migrants qui tentent de rallier l'Europe au menu du Conseil des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles aujourd'hui. Alors que la situation se dégrade en Méditerranée, plus particulièrement en Libye, où Médecins sans frontières vient de suspendre ses activités à Tripoli face aux violences, Édouard Marguier, qui sont infligées aux naufragés récupérés par les gardes-côtes libyens.
Des violences répétées depuis le début de l'année dans ces centres de détention et qui s'intensifient ces derniers jours. Ouna Khoury est en charge des opérations médicales en Libye pour Médecins sans frontières.
Après une période d'augmentation de tension entre les nouveaux arrivés et les gardes, les gardes, ils ont ouvert le feu sur les détenus.
Selon MSF, c'est la conséquence de la forte augmentation du nombre de migrants interceptés en mer par les gardes-côtes libyens, puis ramenés de force en Libye. 14 000 depuis janvier, c'est plus que toute l'année dernière. Des personnes renvoyées dans des camps où les conditions de vie sont inhumaines.
C'est des containers métalliques, sans fenêtres. Les gens sont coincés à l'intérieur. Actuellement, il y a entre 3 et 4 personnes par mètre carré.
L'humanitaire met en cause l'Union européenne qui finance et forme les gardes-côtes libyens depuis 2017 pour fermer la route vers l'Europe.
L'implication de cela, c'est que les gardes-côtes sont en train d'intercepter les gens qui sont en train d'essayer de fuir un cycle de violence. Ils sont en train de les retourner de force dans un pays qui n'est pas du tout sûr pour eux. Alors le financement de l'Union européenne est directement impliqué dans ce système de détention inhumaine en Libye.
Avec la suspension de ses activités, MSF espère ouvrir des négociations avec les autorités libyennes et veut attirer l'attention de la communauté internationale et en particulier celle de l'Europe.
Un record de chaleur à Moscou hier, il a fait 34,8 degrés, une température jamais atteinte depuis 120 ans selon Météo France, alors qu'à Lyon, c'est l'orage d'hier soir qui a été spectaculaire dans l'agglomération, des rues transformées en torrents et des grêlons gros comme des balles de ping-pong sont tombés vers 19h sans faire de victimes. Enfin, souvenez-vous, mais n'ayez pas peur.
S'il avait un visage, on pourrait le regarder dans les yeux. Le blanc.
Le blob, le blob ou la terreur des années 80 au cinéma que l'on redécouvre, bien moins effrayant avec Thomas Pesquet. Le blob est inoffensif, il fera l'objet d'expériences dans la Station Spatiale Internationale à l'automne. Mais surtout, le blob est fascinant, organisme inclassable et objet d'études ludiques dès la primaire. Exemple dans cette classe de Villeneuve-d'Ascq dans le Pas-de-Calais avec Claire Mesureur.
Lui, c'est Blob Marley.
Et juste à côté de Blob Marley, Blob Sinclair prend ses aises dans une autre coupelle. Mais qu'est-ce qu'exactement un blob ?
Un blob, c'est pas un végétal, c'est pas un animal, c'est le cousin d'un champignon.
Et le blob peut survivre pendant des centaines de millions d'années. Et c'est très simple finalement de le ramener à la vie quand il a séché.
On les a mis sous l'eau, puis après ils se sont réveillés. On leur a mis des flocons d'avoine, puis après ils ont mangé les flocons d'avoine.
Mais le blob apprécie également le gâteau au chocolat. Les enfants en ont fait l'expérience et à force de manger, il grossit tellement qu'il faut intervenir.
On l'a coupé en deux parce que sinon, après il va s'échapper. S'il n'a pas assez de flocons d'avoine, il va s'échapper pour aller chercher de la nourriture.
Mais rassurez-vous, l'intervention qui a ensuite donné naissance à Blob Sinclair n'est pas douloureuse. Le blob n'a ni cerveau, ni terminaison nerveuse. Et cette expérience passionne les élèves de Sophie Kowalkowski.
Ils sont complètement passionnés. Si j'oublie dans la journée, c'est presque un drame, puisqu'on va peut-être perdre 5 minutes, on va sortir en retard. Mais il faut absolument qu'on prenne des nouvelles de nos blobs chaque jour.
Et à la rentrée prochaine, Blob Sinclair et Blob Marley seront probablement rejoints par Blob Moran et Blob Dylan.
On ajoutera Blob que Dylan. Le blob est un organisme monocellulaire qui est capable, Nicolas, de trouver la sortie d'un labyrinthe.
Formidable.
Offrez-moi un blob.
Avec grand plaisir. Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Et c'est un jeudi plus ensoleillé dès ce matin, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, sauf à l'est, hein, mais c'est vrai que c'est plus calme ailleurs et le ciel s'est bien dégagé près de la Manche, de la Bretagne aux frontières belges, mais il fait frais, pas plus de 5 degrés dans la Manche à Équilly, 8 à Étretat, mais de l'Alsace aux Alpes, les orages se forment déjà et du Massif central jusqu'au Pays Basque, on a toujours des averses, parfois orageuses. En revanche, de la Corse à la Côte d'Azur et les régions du Golfe du Lion restent à l'écart sous un mercure déjà estival avec 21 déjà à Menton et au Cap Corse. Il fait 13 à Paris, à Lille ou à Bordeaux et 15 à Strasbourg.
Et les orages vont glisser vers l'est.
Oui, et ils seront forts cet après-midi avec de bons cumuls, de la grêle, de l'Alsace à l'est du Rhône et de l'Auvergne. Et les averses vont rythmer encore votre après-midi sur le Massif central et sur l'arrière-pays provençal. Il fera beau et profitez bien près de la Manche en descendant sur l'Île-de-France jusqu'en Aquitaine. Alors que les nuages vont avancer sur le Finistère, annonçant une perturbation pour demain. Et on aura toujours un soleil estival autour de la Méditerranée sous un petit vent. Et on va gagner quand même 1 ou 2 degrés avec 18 à Cherbourg et Aurillac, 19 à Quimper, un petit 20 à Paris. Hein, ce sera toujours mieux que les 16,5 degrés d'hier. Il fera 21 à Lyon comme à Biarritz ou Nancy. Comptez 22 à Nantes, 23 à Toulouse, 27 à Antibes et Avignon, 28 à Montpellier. Et on montera à 30 degrés à Bastia.
Merci Marie-Pierre. Et à tout à l'heure. Il est 8h19. Vous écoutez France Inter.